Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, le show amiral Monday Night Raw. Nous sommes le 17 janvier 2022 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Avec moi, pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai Tonton Chris. Salut Tonton.
Salut El Patron, salut peuple du Catch Up, bienvenue dans l'Oklahoma. Il y fait un peu plus chaud que dans le Nebraska de la semaine dernière.
Ouais, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Bah, c'est normal que ça se réchauffe parce que nous sommes à quelques encablures du Royal Rumble. Et oui, on posait les dernières pièces avant ce grand événement. Et c'est Becky Lynch qui ouvre le show. Alors, elle est applaudie, elle est huée. Becky Lynch, on adore la détester, hein, cette Irlandaise. C'est une des chouchous du public, c'est difficile de la détester complètement, mais bon, elle va faire du bon boulot un petit peu, essayer de s'attirer la hit. La semaine dernière, Doudrop est devenue la challengeuse numéro 1 pour le titre de championne de Raw pour donc, le match qui aura lieu au Royal Rumble. C'est l'heure des grands noms, hein. On a déjà cité pas mal de filles qui se sont annoncées des stars, des Hall of Famers qui vont s'inviter au Royal Rumble. Mais le souci, c'est Doudrop. Là, c'est là le sujet. Et donc, Doudrop qui a eu son titre grâce à qui? Bah, grâce à Becky en fait. Eh oui, tonton, c'est Becky qui a fait en sorte que Doudrop ait gagné son match de qualif. Elle est intervenue dans le match et donc tout le mérite lui revient. Doudrop qui débarque, je crois, à ce moment-là ou c'est un petit peu plus tard? Non, oui, c'est à ce moment-là, je sais plus. Oui, elle arrive à ce moment-là.
C'est ça.
Donc elle dit, bah écoute, il n'y a pas de souci. Ce soir. Toi et moi, on va. Enfin, Doudrop lui dit, mais écoute, moi j'ai gagné tout ce que j'ai fait. Enfin, voilà, j'ai gagné sur grâce à moi-même et pas grâce à toi. Et puis s'ensuit un peu une séquence de porte de saloon, comme on aime si bien faire à WWE, avec Bianca Belair et également Liv Morgan qui débarque. Voilà, ça s'invective, ça se balance des mots doux. Et tout ça va nous booker un 2v2, Becky Lynch et Doudrop. Donc les deux européennes contre Bianca Belair et Liv Morgan, les deux américaines, dans un 2v2. Un match assez physique, assez rythmé, j'ai trouvé, où les filles ont quand même pas mal donné de leur personne, avec notamment Doudrop qui était au four et au moulin. Bianca Belair là, qui nous a fait encore une belle démonstration de force. Elle a même tenté de soulever Doudrop, mais bon, je crois que ce sera pour une prochaine fois.
Ouais.
Voilà, il faut procéder step by step, hein. On y va doucement mais sûrement. Liv Morgan, qui est toujours dans l'histoire, pareil, qui déroule. Mais à la fin, Becky Lynch se tag et demande à Doudrop de partir. Mais c'est Bianca Belair en profite pour mettre un gros dropkick. Morgan qui entre et qui attaque Becky Lynch. Et Becky Lynch qui peut placer sa prise de finition, là, le Man Handle Slam. Et Doudrop l'attaque, elle se tag elle-même et elle fait le tomber. Elle lui pique donc tout le prestige de la victoire. Alors c'était un petit peu la confusion hein, sur la fin. On avait l'impression que Doudrop elle avait tenté de faire le tomber. Mais en fait l'arbitre lui dit mais non, attends, il faut... T'es pas la femme légale. Et c'était à la fois un peu de la confusion, mais c'était plutôt drôle où elle traîne comme ça Becky Lynch pour faire le tag elle-même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, tonton?
Bah écoute, tout cet opener, c'est plutôt pas mal. La rivalité du moment dans le main event féminin, ouais, tout est plutôt pas mal en place. Le tag team, il est assez convenu et quand on voit tout le monde arriver comme ça, on se doute bien que ça va se transformer comme ça. Mais moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Becky impeccable. En plus, Becky maligne pendant le combat qui va éviter en fait pas mal de choses et va laisser beaucoup Piper Niven, enfin Doudrop pardon, bosser. Mais le match en lui-même, finalement, ça dure 3 minutes, quoi. C'est vraiment c'est hyper hyper rapide, c'est un peu ça qui me laisse un peu moi sur ma faim. Pour l'opener comme ça, après un truc, une séance de promo comme ça, ils auraient pu mettre au moins un match de 6-7 minutes, tu vois, ça aurait pas été un crime. Donc je trouve que les filles n'ont pas été trop gâtées là-dessus. Alors après, souvent, parce qu'on se plaint souvent sur les rivalités des femmes, etc. Mais le rapport de temps d'antenne n'est pas le même pour les femmes que pour les hommes, souvent. Et donc c'est plus compliqué d'installer ces promos, ces machins, démontrer un peu dans le ring qu'on est capable de délivrer la marchandise. Donc ça, c'est un petit peu ce que je regretterais. Mais après, c'est pas mal. Écoute, moi, pour le coup, les quatre me sied bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors moi, j'ai plus... le cœur qui va vers Becky et Bianca en particulier, mais je trouve que Liv Morgan se débrouille bien, et je trouve que pour Liv Morgan, en fait, c'est l'idéal ce qui est en train de se passer pour elle. C'est une configuration impec pour une jeune comme ça, quoi. Un truc à 4 où on se partage le micro, où il peut y avoir des différents matchs, des tag teams, des 1 contre 1. Je trouve que pour elle, pour son apprentissage finalement, c'est plutôt pas mal, et donc j'ai plutôt, plutôt bien adhéré sur ce segment.
Ouais, la promo, c'est vrai que le match n'était pas forcément à la hauteur de la promo où ouais. Les filles sont quand même pas mal envoyées dans la...
Bah ouais.
C'était pas méchant, mais chacune se tire un peu la couverture à soi, et c'est vrai que le match, quand bien même j'ai trouvé plutôt bon, c'est vrai que, il était court, et puis cette petite fin-là était un petit peu étrange, on était un petit peu paumé. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne, c'est du tag team, on va en bouffer de toute façon, là, jusqu'au Rumble, c'est une configuration assez classique. Et oui. Voilà, on remet un petit peu sur le devant de la scène les filles qui vont faire les matchs au Royal Rumble. Au passage, Becky Lynch a bouffé les fesses de Doudrop. Hein.
Oui, c'est après, vrai. Bon appétit.
Voilà, bon appétit, bien sûr. On quitte la division féminine. Alors, il se passe pas mal de choses. C'est Kevin Owens qui nous explique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est le Kevin Owens Show déjà ? Je ne me souviens plus que c'était déjà le Kevin Owens Show. Non, c'est un petit peu plus tard. Kevin Owens, donc. C'est le Kevin Owens Show qui commence. Kevin Owens, il a sa petite cravate.
Oh, le patron, il est perdu dans ses notes.
Oui, je me souviens plus.
Ah,
Une petite séquence avec le couple de Hall of
Fame. Ouais, voilà, t'as le 24-7, voilà. T'as le 24-7 avant, voilà.
Voilà, il y a le petit 24-7. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, Reggie et Dana Brooke étaient en discussion avec Edge et Beth Phoenix, qui étaient là ce soir, donc ça se dit des gentillesses. Et juste après, ça croise Damien Priest. Donc Edge croise Damien Priest. Il fait un petit check et tout. Il fait ouais.
Acte d'allégeance presque Damien Priest envers Edge. Hein.
Ah oui, il fait ouais voilà tout honoré là de rencontrer sa star en chair et en os. Et puis Edge lui donne un petit conseil. Hein, il lui dit quelque chose du genre voilà il y a ce côté t'as un peu double face et tout. T'as un côté fun mais t'as aussi un côté un peu en colère. Voilà, c'est ce côté-là, là, il faut le travailler et tout. Tu fais, d'accord. Alors, c'était un petit peu un état des lieux du personnage de Damien Priest, j'ai trouvé. C'était un petit peu étrange, Damien Priest qui a expliqué 2, 3 ou 4 fois au début du show qui il était, qu'il avait un côté un petit peu dark, qu'il voulait pas trop, voilà, qu'il devait contrôler ça, parce qu'il lui dit la même chose à Kevin Owens, parce qu'après, il croise Kevin Owens, c'est Kevin Owens qui rentre dedans, et puis il lui dit, toi, ce côté-là... je veux pas trop le voir, on va avoir un match ce soir, toi et moi. C'est ça, ils vont avoir un match ce soir tous les deux, mais on va faire un match clean. On va faire un match clean ce soir. Hein. On va. Pas de coup bas, quoi. Pas de sale coup. Et évidemment, Damien Priest lui fait oui, enfin, t'es Kevin Owens quand même. Hein. T'es pas l'homme le plus honnête du monde. Et toute cette séquence, c'était une longue séquence finalement backstage à mener au Kevin Owens Show. Voilà. J'ai retrouvé mes notes. J'ai retrouvé le fil rouge, tonton. Alors le Kevin Owens Show, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de Kevin Owens Show, hein. Ou alors j'ai pas regardé les bons épisodes de Monday Night Raw, c'est possible aussi. Donc eh ben, là on a droit à un numéro, hein, numéro de spécialiste là, du stand-up, là, Seth Rollins qui est l'invité, et Kevin Owens, on balance les chaises, on reste debout, c'est celui qui sera le plus malin qui dira le plus de conneries tout en se faisant des petits compliments. Et hein, Kevin Owens admire le courage de Seth et il le trouve magnifique dans sa nouvelle tenue là ce soir, qui est toujours douteuse, mais au moins il assume hein, Seth Rollins au niveau de vestimentaire. Et là Kevin Owens fait carrément l'éloge hein, de Seth Rollins. Il lui dit qu'il est allé à SmackDown défier défier la tête de la table. Peut-être que Roman Reigns est la tête de la table, mais Seth Rollins, c'est lui qui met la table. C'est lui qui installe la table, c'est lui qui décide finalement.
C'est le maître d'hôtel.
Et donc voilà, et Seth Rollins, ouais, t'as raison, je crois que Roman il a un petit peu peur de moi, et je vais ramener le titre là, titre universel, je vais le ramener à la Maison Rouge, c'est notre show. Alors et voilà, tout le monde rigole, tout le monde passe un bon moment. Et puis après il dit, ouais, après on va se débarrasser, toi et moi, de Brock et Bobby, et puis moi, Kevin dit, ouais, ben moi je vais gagner le Rumble, alors il annonce, il dit, hein. Il fait une grosse annonce devant tout le monde, c'est incroyable, tonton, Kevin Owens sera participant au Royal Rumble. Et ça, tu l'as pas vu venir, j'en suis sûr.
Oh là, j'en étais très très loin, là. Moi, je pensais qu'il allait participer au Mondial de Pétanque de début février ou fin janvier, mais vraiment, le Royal Rumble, Kevin Owens, non, c'est pas possible.
Ah, Kevin Owens au Mondial de Pétanque, ça serait un comptoir du catch intéressant à faire, là, tonton.
en direct live.
Ah oui, carrément, oui.
Du boulodrome de la Canebière. Au peu cher.
Chris débarque de Marseille. il fait la tranche. Il nous dit voilà Kevin Owens qui va lui promet de lui botter le cul. Personne ne croit que Seth Rollins puisse battre Roman Reigns. Kevin Owens c'est un gros menteur. Et ce soir, eh ben il y a match. Et donc on a un match donc Kevin Owens contre Damien Priest, mon tonton. Évidemment, contrairement à ce que Kevin Owens a annoncé, ça va pas être un match clean. Ça va pas être un match clean. Puisque après s'être rendu coup pour coup, Kevin Owens feinte la blessure. Il feinte la blessure. L'arbitre est quasiment prêt à arrêter le match. Et Kevin Owens en profite pour placer le stunner sur le champion US pour le tomber. 1, 2, 3, victoire du Canadien, mon tonton. Quel filou celui-là, alors.
Et grosse défaite pour Damien Priest. Première grosse défaite pour Damien Priest. Hein. Il a invaincu en 2021. Et là, il perd en 1 contre 1 face à Kevin Owens. Alors évidemment, avec une filouterie de notre Québécois favori. Mais c'était bien, hein. Un match de 11 minutes, là où j'ai trouvé que les mecs pouvaient s'exprimer. L'opener de départ, bah, le KO Show, moi je rejoins Trish Stratus, hein, qui a tweeté après le Monday Night Raw en disant que, avec une image de Kevin Owens au micro et puis promo material, voilà, c'est ça qu'il est, KO. Et c'est génial avec toute cette histoire de plans qui sont en train de monter avec le set freaking Rollins. Du coup, tout ça me plaît bien, c'est parfait. Derrière, on a un bon match de catch. Donc, vraiment, au top.
Ouais, on a bien rigolé, ils ont passé un bon moment. Là, c'est Seth Rollins, c'est Kevin Owens, c'est un petit peu les. Et bah, comme l'a dit Trish Stratus, c'est vrai que c'est les rois de la promo. Et c'était... On a eu pas mal de promos ce soir. Hein. Les gens ont tenu leur micro, on verra un peu plus tard. Certains même qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire. Et effectivement, une première défaite pour Damien Priest. Mais voilà, il faut le lancer dans quelque chose, hein, Damien Priest. Donc voilà, c'est via une défaite pas déshonorante, hein, face à un Kevin.
Non.
Face à un Kevin, un ancien champion du monde, un peu filou.
Un up mid-carder, limite main eventer. On peut même dire un main eventer, parce que si on compte là depuis décembre le nombre de main events qu'il a fait à Monday Night Raw, sans compter les pay-per-view, Kevin Owens, il est quand même chaud bouillant en ce moment.
Ouais. On est backstage, il faut régler cette histoire là avec les filles, Rhea Ripley et Nikki. Alors, Rhea reste droite dans ses bottes là, elle va pas se laisser abattre par ce qui s'est passé, hein, l'horrible scission et les mots durs qui ont été lâchés la semaine dernière. Et donc après, Nikki fait un peu la même chose, elle dit que c'est Rhea faute de Rhea s'il n'y a plus d'équipe, et elle a balancé leur amitié à la poubelle. Elle dit qu'elle est peut-être la méchante dans toute l'histoire, hein, dans toute cette histoire, pardon, et qu'elle est l'héroïne du peuple, mais que parfois les super-héros doivent faire des choses que le peuple comme nous, le petit peuple ne comprend pas. Et oui, ne comprend pas, et c'est ça qui est important, c'est que parfois de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mon tonton.
Ah bah oui, comme le dit le vieil adage.
Ouais. On les retrouvera un petit peu plus tard. C'est l'heure de la cérémonie. Est-ce que tu as un diplôme, tonton ? Est-ce que tu es diplômé ?
Je suis diplômé de...
T'as téléchargé un truc sur Internet, t'as fait un petit test, un petit quiz sur Internet.
J'ai une très bonne imprimante.
Il a tous les diplômes qu'il faut, tonton.
Exactement. Voilà, je suis équipé, j'ai une imprimante parfaite et ça. Quand j'ai besoin d'un diplôme, elle me le sort, mais facile, quoi. Juste un petit clic.
Cérémonie de remise de diplôme ce soir pour Otis. Otis qui est finalement voilà, le premier diplômé de la Alpha Academy. Et donc ils sont là avec tout en dans leur costume là de jeunes diplômés, avec le petit chapeau et puis la petite cordelette là qui tombe. Je ne sais plus comment on appelle ce délicieux costume. C'est ravissant, ça leur va bien. Et ils vont nous faire, écoute, j'ai trouvé justement en parlant de master, parce qu'il a son master, il a sa licence, hein, ils ont fait une petite master de promo, là, j'ai trouvé quand même, Chad et Otis, là, hein, je m'y attendais pas, ils m'ont bien fait marrer. Notamment, ils commencent, parce que les gens les huent et Chad Gable leur dit, don't boo education.
Exactement, ouais.
Ah, ça, c'était formidable.
C'est difficile. Il leur avait déjà fait le coup la semaine dernière, déjà. Il leur avait déjà fait le coup, quoi, la semaine dernière. Et là, il le ressort, mais il le ressort pile poil comme il faut, quoi.
Ah ouais, ouais. C'est l'heure de la célébration ce soir. On célèbre Otis. Voilà, c'est un sacré morceau. Otis, un bon barbac. On n'imagine pas qu'il y en a autant dans la caboche. Eh bien, si. Il est costaud, il est intelligent et il a son diplôme, le petit pompon. Et puis, Chad Gable nous fait un beau discours, la petite bise sur la joue. Voilà, la parole est à lui. Et puis Otis nous explique voilà, que grâce à Chad Gable et à l'Académie Alpha, il a pu atteindre son plein potentiel. Et maintenant, il nous prévient, on est prévenu que ça va être un carnage à tous ceux qui vont essayer de leur reprendre leur titre de champion. Donc voilà, on est prévenu. Et la Tipa qui débarque, c'est Riddle. Alors Riddle aussi, il est tout habillé en jeune diplômé. Donc il fait des fouilles, félicitations Otis, t'es bien habillé là, c'est un peu serré, là, un peu collant, mais ça te va bien. Quand j'étais invité, je me suis dit que j'allais faire un petit discours et je l'ai écrit là sur la nappe du buffet du catering là, à l'arrière de la salle. Donc félicitations hein, à Otis. Il nous explique qu'il était avec Randy, voilà, ils ont eu leur bon moment, et c'était des deux jeunes. Étalons sauvages qui couraient dans la pampa à travers la pampa de la WWE. Et aujourd'hui, bah, c'est un grand moment. C'est un grand moment pour lui de voir Otis comme ça gagner, voilà, obtenir son diplôme. Bah, Gable, il fait attends, mais t'es pas invité. Voilà, il y a que des. Voilà, il fait un peu de cheap shot. Et puis. Riddle dit, attends, mais je suis venu là en bon ami, qu'est-ce que tu me veux? Tu dis, bah voilà, moi je sais ce que tu veux un rematch. Mais tu sais quoi, tu sais même pas comment définir un rematch. Bref, il le prend pour un gros teubé. Il dit, bah ok, vous avez un rematch la semaine prochaine. Si vous réussissez, alors là, tonton, je sais pas si tu sais en quoi ça va consister, mais un Alpha Academy Challenge. Donc un challenge de connaissances. Pointues hein, pour nos amis des RK Bro qui les entendent la semaine prochaine. Alors, on a un gros zoom sur Otis avec la tête qu'il a tirée, là c'était très très drôle. Mais avant tout ça, un petit RKO au passage, et oui, Orton était caché et il place un RKO sur Gable. Orton et Riddle. Prennent le petit chapeau, ils mettent le petit chapeau et ils posent tous les deux et rendez-vous est pris la semaine prochaine.
C'est ça.
Et ben, c'était long. Mais moi, je me suis bien poilé.
C'était un peu long, ça a un peu traîné en longueur, effectivement, mais c'était plutôt globalement assez sympa. Moi, j'ai trouvé que Chad Gable tenait super bien le micro, en particulier sur la première partie. Ouais. Alors là, effectivement, on est dans un segment typique de culture américaine. Avec tout ce que ça englobe, les cérémonies de remise de diplômes, etc., les tenues comme dont t'as parlé. Mais finalement, ils se sont bien sortis, même si ça traînait un peu en longueur, c'était plutôt marrant. Après l'arrivée de Riddle, tout le truc sur le fait que Riddle, il a qu'un neurone et que donc il peut pas comprendre ce qui est en train de se passer là. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Finalement, le RKO du Randy Orton sous les acclamations de la foule. Tout ça, c'était plutôt sympa, c'était fun et ça passait bien. Un tout petit chouille de traîner en longueur, mais c'est pas bien grave.
Non, pas bien grave. Moi, j'ai adoré. J'ai pris mon mon vrai plaisir et ça fait du bien de voir d'autres voilà d'autres stars comme ça prendre le micro et délivrer des bonnes promos. Gable et Otis, ils avaient un timing là de la comédie qui était super. Gable, il a réussi à éteindre les watts, des chants watts pendant son discours.
Ouais.
En jouant sur la rythmique, en faisant en sorte que les mecs, ils arrivent pas à placer vraiment leur watt, et du coup, quelques secondes, au bout de 15 secondes, ils avaient arrêté de watter, alors que bah, tout était là, toi. D'habitude, c'est ce genre de promos se font facilement hacker par le public. Non, pas du tout. La Gable, il a assuré, et il a fait son discours, et c'était franchement, c'est très très drôle. Moi, j'ai passé vraiment un super moment là avec les quatre zigotos. C'est bien ce qu'ils ont fait cette semaine.
Même Otis en est plutôt bien sorti, et puis oui. Du coup en regardant un peu ça, je voyais Chad Gable et Otis, en l'occurrence, ils se connaissent depuis très longtemps.
Ouais.
J'imaginais pas à quel point en fait ils se connaissent depuis la fac, les mecs, quoi. Et Chad Gable sur son Twitter, il a ressorti pas mal d'images de eux deux quand ils étaient plus jeunes et tout, c'est assez, ouais, assez incroyable, quoi. Et donc c'est plutôt sympa d'avoir cette équipe là. Championne qui tient le micro, qui a quand même là les former champions, donc des gros challengers quand même qui rôdent, hein. Et puis la tag team de toute façon à Monday Night Raw, on va en parler un peu plus tard. Il y a du monde, il y a des équipes, donc c'est sympa là. Il y a une vraie animation dans la tag team division à Monday Night Raw.
Ouais, exactement. Bon alors on en reparlera tout à l'heure. Avant ça, on va parler de voilà, ouais, c'était les montagnes russes, hein, parce que juste après il y a eu je crois peut-être mon flop de la semaine à chaque fois, mon petit flop habituel, Vince McMahon, grabataire, hein, qui perd la boule.
Oh là, cette semaine, là, c'est... Oh là là, vas-y, je te laisse faire, mais...
Donc, Vince est en train de... Voilà, on avait des petites vignettes là, de la victoire de Finn Balor, hein, ce qui a déplu, évidemment, à Vince McMahon. Austin Theory n'a pas réussi à battre Finn. Alors, il se retrouve dans son bureau. Hein. Il se retrouve dans son bureau, et Vince lui dit, bah, écoute, ce soir, t'as intérêt à gagner... Sinon, je vais te tabasser, et puis je vais carrément te détruire, t'arracher les tripes, et il restera plus que du sang, et il restera plus que tes dents, et puis j'en ferai un selfie, et puis je l'enverrai à ta mère.
C'est incroyable ce qu'il lui dit, quoi. C'est incroyable, quoi. Il lui dit qu'il fera traîner Théorie jusqu'à son bureau et qu'il le laissera dans une mare de sang, de sueur et de morve, et qu'ensuite il prendra le selfie. Enfin, je veux dire, waouh! On parle d'un type qui a quoi, 74 ans, je crois.
Ah, il est complètement sur la touche, la Vince McMahon.
Oh, mais c'était malaisant, là, ce segment-là. En plus, bon, je sais bien, on kayfabe, etc., Mr. McMahon et tout, mais hors kayfabe, quand même, quand on sait aussi le personnage que c'est, les, voilà, tous les... tout ce qui se passe en tant que président de la WWE face à un jeune de 24 ans qui commence, hein, dans le business, hein, tu vois, quoi, et je... Enfin, moi, j'ai été... autant la semaine dernière, bon, tu rigoles, un petit peu jaune, mais tu rigoles. Autant là, tu vois, j'ai trouvé ça malaisant cette semaine.
Ouais. Il y a une théorie. C'est que Vince McMahon...
Il y a.
Vince McMahon a peur de la mort.
Ah.
C'est Vince versus Death qui est en train de se jouer sur devant nous. Vince, il a peur de la mort. Tu sais ce qu'il... Est-ce que tu as entendu cette histoire des entraîneurs de NXT? Quand Vince McMahon a repris la main sur NXT, là, il y a quelques mois...
Ouais.
Il y a un ancien entraîneur, je sais pas s'il est toujours actif, mais un entraîneur qui, dans une interview, a expliqué que voilà, il y a eu plein de nouvelles consignes. Alors, du staff est parti, évidemment, il y a eu des remplacements, mais il a demandé à ce que tous les entraîneurs, les coachs, notamment, se teint la barbe.
Ah oui, c'est c'est Scotty Tuoti qui a fait une interview là-dessus cette semaine. Alors, oui, il a parlé d'ailleurs, et il a demandé aux entraîneurs. Alors pour les catcheurs de Stan de la barbe, ce qu'a fait Tommaso Ciampa en l'occurrence.
Exactement.
Qui est actuellement en dark match à SmackDown, et aussi il a demandé aux entraîneurs de se raser, de se couper les cheveux pour paraître plus jeune. C'est assez incroyable, ouais, assez incroyable.
Et je me dis, alors ça plus et quand je vois cette séquence là, je me dis mais le mec il se met quand même dans une espèce de storyline complètement naze avec. Une des plus jeunes superstars du roster, et il se remet dans son vieux rôle qu'il avait avant. Tu parlais de Mr. McMahon, donc cette brute cruelle qui était effectivement capable du pire, mais
oui.
Aujourd'hui, t'en rigoles, tu le vois. Quand tu l'entends dire ça, tu fais « Mais qu'est-ce que tu racontes, là ?» Tu vis dans le passé, dans un espace alternatif où effectivement, on devrait avoir peur. Voilà, c'est complètement, complètement ridicule. Et effectivement, c'est difficile en fait de rentrer dans ce qui se passe là sans. Enfin, tu vois trop l'envers du décor et comme tu le dis, c'est très, très, très gênant. Moi, je suis ressorti de là, je fais waouh, mais on n'a pas envie de voir et d'entendre ça. S'il vous plaît, là, vous pouvez le ramener là, à la maison, là, vite, Spekman. Quelqu'un peut venir le chercher.
C'est très compliqué. Enfin, moi, je me mets à la place du jeune Austin Theory, qui a quand même 50 ans d'écart. En face, il a son grand-père. Entendre ça, quand t'es un jeune catcheur, même si t'es dans la Big League, dans la plus grande fédération mondiale, en direct, à l'antenne, un lundi soir, c'est quand même particulier, quoi. Surtout que, bon, on en a pas encore parlé, mais il y a la suite qui va arriver derrière. Et je suis vachement partagé, parce que d'un côté, Austin Theory, il a ce droit, ce segment avec le patron de la Fédé. Du coup, ça lui amène des matchs, du temps d'antenne tous les lundis. Il va avoir, je pense, un bon ticket dans le Rumble. Il est vraiment poussé et c'est pour ça c'est étrange parce que je me dis bah merde si Vince McMahon il fait ça c'est qu'il y croit en ce jeune et pourquoi sortir des promos aussi malaisantes après derrière j'ai du mal à m'expliquer si tu veux pour moi il y a un problème de cohérence là dans cette histoire là mais bon.
Bon écoute il y a un match qui a suivi un Finn Balor contre Austin
alors là oui
et ça, alors là, Finn Balor il a pas fait le déplacement pour rien il doit être content d'être revenu. Puisque à la fin du match ça s'arrête pas très bien pour lui Balor contre un roll-up pour un near fall et Theory évite le coup de grâce et il place son rolling drop kick avec le ATL donc sa prise de finition pour la victoire et donc une belle victoire là pour Austin Theory et une belle défaite pour Finn Balor.
Et Finn Balor vaut plus un clou et de toute façon ça a été pareil encore un truc annoncé dans les médias de manière assez claire. Puis il y a plein de trucs qui sont sortis cette semaine là et des anciens bookers, plein tout un tas de gars, etc. Il y a eu une interview assez intéressante d'un booker dans je ne sais plus quel podcast qui parle de tout le booking avec Triple H par exemple en 2008, l'année où Jeff Hardy est champion du monde. Et c'est hyper intéressant ce genre de témoignage. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que Vince McMahon, lui, il a carrément dit, de toute façon, sans embâge, hein, et sans s'en cacher, que pour lui, Finn Balor, c'était tout simplement qu'un mid-quart d'heure, mais qu'il voyait aucun avenir. Ouf ! Et que donc derrière, il sert de paillasson à Austin Theory dans un match de 6 minutes, mais où on sent bien, tu vois. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai de l'espoir pour Finn Balor pendant ce match. Hein. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible un peu ce qui se passe pour l'Irlandais, hein, parce que, vraiment, la gestion du roster, hein, par moment, on se pose quand même plein de questions, mais ça peut être légitime quand même, par moment.
Ouais, c'est assez étrange. Alors voilà, tout le monde ne peut pas être le main event, tout le monde ne peut pas être la tête
de la
table.
Non.
Mais bon, voilà, c'est vrai que ta position dans la carte peut aussi dépendre de. Il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu, et voilà, Finn Balor, là, visiblement. Je pense à Ringside qui, chaque année, nous annonce que c'est l'année de Finn Balor. Je reposerai bien la question, là, tu as l'impression des Nitro. Qu'est-ce qu'il en pense?
Puis on en reparlera au mois de juin, quoi. Enfin, ou après WrestleMania, ouais. Aussi.
Ouais. Qui
est souvent une période compliquée en termes de gestion des RH.
on revient à la division féminine. Je vous en ai parlé tout à l'heure, finalement. Donc, Rhea Ripley et Nikki H ont failli avoir leur match. C'est même pas le match. Est-ce que le match a commencé? Non, il n'y a pas eu de match.
Non.
Elles étaient toutes les deux sur le ring, mais elles ont été interrompues par Carmella et la Queen, la Reine Zelina, qui sont venues se moquer des deux filles avant de repartir. Et Nikki en a profité pour attaquer Rhea Ripley par derrière et la balancer dans les escaliers de fer. Et Rhea Ripley, qui a fait la moue pendant tout ce segment, là, qu'elle se fait interrompre. Elle se fait marcher dessus, là, Rhea Ripley, ça se cognait la tête. Où elle est, la badass, là, Rhea Ripley? Où elle est?
Rhea Ripley, elle a l'air de se faire chier, moi. Je vais te dire, franchement, c'est mon sentiment, là. J'ai l'impression qu'elle s'emmerde dans cette rivalité.
Dis-le si tu s'emmerdes,
Rhea. Ouais, Rhea s'emmerde. Et Nikki, moi, je comprends pas un truc, là, c'est... ok, qu'elle passe du côté obscur de la force, moi, je suis pas contre. Mais dans ces cas-là, on revoit un peu le cosplay, tu vois, on change un peu le packaging, le truc super-héros, tout ça, ça marche plus maintenant, là, en super méchante. Pas en tout cas avec un costume de super gentille. Donc, je sais pas, c'est...
Ça, je dirais, ça peut être super intéressant, justement, d'avoir des personnages de super-héros qui en fait font des mauvaises choses et ils pensent qu'ils voilà, ils ont le pouvoir et que obsédés par leur voilà, leur propre mission, toi, de sauver le monde, finalement, ils se retrouvent à faire des mauvaises choses. Je suis moins inquiet pour limite, je suis moins inquiet pour Nikki Cross avec ce
C'est vrai.
développement de personnage que pour Rhea Ripley qui, comme tu l'as dit, a l'air de se faire chier. N'a pas la Rhea Ripley qu'on aime, et tu te
Ah
dis,
non.
mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus là pour passer la seconde et revenir la fille badass et arrêter de pleurnicher à chaque fois qu'elle trébuche dans les escaliers?
Et puis Rhea Ripley, là, c'est vraiment pour l'instant, c'est un peu un espoir déçu, quoi. Elle a fait quand même une grosse année et tout. Et enfin, je sais pas, je pige pas trop là où ils veulent en venir avec elle. Et du coup, je trouve que ça se ressent parce que elle-même, je la sens pas assez investie, quoi. Donc, tu as raison, Nikki paraît beaucoup plus investie dans la rivalité et beaucoup plus dans son personnage et dans tout son work que Rhea Ripley.
Bon, écoute, on verra. Il reste un Monday Night Raw avant le Rumble, hein.
Les Go Home Show la semaine prochaine.
Ah, donc là, il va falloir, parce que Rhea Ripley, elle arrive au Rumble, voilà, elle a une carte à jouer, donc il faut retrouver la Rhea Ripley dominante. J'imagine que c'est le visage-là qu'on verra la semaine prochaine. Monday Night Raw, il lui reste plus qu'une chance, là, avant le gros pay-per-view.
Le seul peut-être petit avantage qu'elle a là-dedans, Rhea Ripley, c'est qu'elle va peut-être arriver un peu cachée, entre guillemets, au Royal Rumble, tu vois.
Oui.
Elle va pas être dans les cotes, d'ailleurs, elle n'est pas dans les cotes des probables vainqueurs du
Forcément,
Rumble.
avec des storylines comme ça, t'es caché et on ne te voit pas, hein, t'es dans l'ombre.
Bien sûr, elle est dans le top 10, on va dire, hein, des probables vainqueurs du Royal Rumble, mais elle est pas dans le top 3, top 5, quoi. Donc, du coup, elle avance cachée, c'est peut-être un avantage parfois, ça.
Bon, hein, qui n'avance pas caché, parce que c'est difficile d'avancer caché quand tu fais 2m30, c'est homos. On a parlé, donc vous voyez une petite séance autour du titre 24/7 que j'ai trouvé assez drôle avec Tozawa, Tuff et Tamina, et puis un arbitre qui était en train de manger du popcorn pendant que Dana Brooke discutait, je crois, avec Reggie. Et puis je crois Omos tombe sur R-Truth et Tozawa, hein, je crois. Oui, parce que le match va commencer. Et tout ce beau monde se retrouve autour du ring. Et Omos s'en débarrasse et puis Tamina le repart. Reggie va pas voir la lumière du jour. Hein, il va se faire choc slam pour la victoire expéditive d'Omos. Quelque chose à ajouter sur Omos?
Bon, non, bah, le géant continue à construire ses squashs lundi après lundi. On va voir où ça mène d'ici le Royal Rumble. Je suis curieux de voir comment ils vont l'utiliser pendant le Royal Rumble. Et puis voilà, et puis ce petit segment 24-7 au milieu de tout ça, où ça passait plutôt. J'en profite juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à R-Truth qui fêtait ses 50 ans hier au moment où on enregistre. Qui
Oui.
fêtait ses 50 ans, voilà, il est un tout petit plus jeune que moi de quelques mois. On a le même âge, mais on n'est pas de la même année. Mais donc félicitations. Et puis on lui fait des bisous parce qu'en plus il a liké nos tweets et tout hier. Donc c'était un bonheur d'avoir R-Truth en direct live sur AdCatchUp CDC.
Ouais, l'appeler Tonton Trousse. Tonton Trousse. Tonton Trousse. Ah bah voilà, gros big up. 50 ans, évidemment, il les fait pas. Il a trouvé la cure de jouvence. La fontaine de jouvence, le Archouf, il rajeunit à chaque fois, il rajeunit à chaque fois.
Il est incroyable, il est dans une shape éblouissante.
Maryse, a un mot pour
Oui.
Beth Phoenix. Elle lui avait laissé un petit mot, il s'était passé beaucoup de choses backstage au début du show, je vous l'avais dit. Il y avait notamment une invitation de la part de Maryse. Elle a invité Beth Phoenix à venir discuter de femme à femme, voilà, d'une à une, au milieu de la foule de 30 000 personnes, évidemment. Elle dit, voilà, alors elle explique que. Son mari, voilà, donc le Miz a pas été très cool, il a pris des décisions sans lui demander, elle explique en fait ce qu'elle veut, elle, c'est pas être face à Beth Phoenix, elle veut être avec Beth Phoenix parce qu'elles ont beaucoup de points communs, je sais pas si tu savais ça tonton, mais elles ont beaucoup de points communs, elles ont notamment, elles sont à l'origine de la Woman Revolution, et ouais, en même temps, tonton qui ne l'est pas, je crois même que toi tu es à l'origine de la Woman Revolution.
Ouais, on en a longtemps parlé, ça a été longtemps caché. Et puis finalement, Dave Meltzer a sorti le poteau rose, ouais, effectivement, il y a quelques mois, donc j'avoue tout.
Et voilà. Bah, et il suffit d'écouter le comptoir du catch dédié à la division féminine, l'histoire des divisions féminines, pour savoir que c'est bien Tonton qui est derrière tout ça. Et Beth Phoenix, elle dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu racontes là? J'en crois pas une miette de toutes tes histoires. Moi, je sais, tu fais comme ton mari, parce que les leçons que tu retiens, c'est celles du Miz. Et Beth donc entre dans le ring. Miz essaye d'attaquer Edge, il était caché le filou avec une petite capuche là, tout en hoodie noir. Beth Phoenix se fait distraire et Maryse en profite pour lui donner un énorme coup de sac à main. qui l'étale, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle a dans son sac à main, la québécoise. Et il se révèle qu'il y avait une brique de chantier, tout simplement, un parpaing dans le sac à main.
Et oui.
Et donc, bah, forcément, se prendre un parpaing dans les dents, même côté la glamazone, ça fait mal, là. Il y a quelques chicos qui ont dû voler.
Ouais, bon, c'est par Maryse, quoi. Maryse vaut bien une brique, hein. Franchement. quel avion de chasse, cette Maryse. Oh, excusez-moi. quand même,
la Woman Evolution, vous dit, hein, ça vient de tonton.
Ouais. Là, ben, c'est sûr que Maryse est un reliquat un petit peu de la période des divas, quoi. Mais c'est une super actrice. Et elle est super. Moi, j'ai trouvé que c'était assez génial, hein, tout ce segment. J'ai bien aimé, en fait, tout le discours qu'elle tient à Bess, etc. Surtout que ça collait totalement avec ce qui s'était passé la semaine dernière, donc qu'on avait reviewé ensemble déjà. Donc, tout ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. L'intervention de Edge. Et puis après, la grosse rigolade du Miz and Mrs. Sous le titan tronc, avec la brique, etc. Avec le Miz qui faisait des bisous à la brique et tout. Moi, je trouve que c'est une chouette guerre de couple. Qui m'enthousiasme beaucoup plus que par exemple celle de l'époque avec Cena et Nikki Bella, tu vois, qui m'avait un peu saoulé. Là, et bah celle-ci, là, moi, j'adhère plutôt, je trouve ça plutôt sympa. Et je suis curieux de savoir ce que ça va donner avec Beth Phoenix dans le ring. Je suis curieux de voir un peu qu'est-ce qu'elle a gardé un peu. Parce que pour l'instant, on en a vu que très, 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 très peu. Mais même Maryse, à la rigueur, qu'est-ce qu'elle a encore dans le ventre le ring, ça, c'est un truc à voir. Mais sinon, écoute, non, j'adhère plutôt facilement à cette rivalité-là. Et puis voilà, le dernier truc, c'est que Maryse, quand même, je crois que je l'ai déjà signalé, mais c'est toujours incroyable, hein, c'est un personnage qui reste complètement heel depuis le début de sa carrière, n'a jamais turné. Et même son mari, lui, a turné à quelques occasions, etc. Mais Maryse, non, elle reste dans ce personnage. Et je trouve que, elle délivre.
Elle délivre. Ouais, tu l'as dit, elle a fait une belle promo au micro. Bah, toi, je disais, il y a eu pas mal de belles promos, je trouve, au micro par des gens qu'on n'entend pas forcément toutes les semaines. Et effectivement, elle était plutôt bien construite, sa promo, parce qu'au début, on sentait vraiment, comme tu l'as dit, c'était assez. C'était vrai ce qu'elle disait, dis souviens-toi, voilà. Les matchs de 2 minutes de filles, alors ça me fait marrer parce que, voilà, on en a parlé, c'est pas forcément tout le temps changé, ça, mais. Il y avait une belle construction dans sa promo et à la fin, le parpaing. Et le parpaing, là, voilà. Donc, Maryse. Comme tu l'as dit, il depuis toujours, il toujours, il un jour, il toujours. Division tag team, tonton t'a dit qu'on était gâtés. Ben oui, et ben ouais. Ce soir, on fait l'inventaire. Voilà. Là, on est l'inventaire, tonton. Allez, c'est l'heure de l'inventaire. Tu t'es commencé tous les ans pour faire l'inventaire au magasin, au studio ketchup.
On se lève tôt.
Les Street Profits, check. Rey Mysterio et Dominic Mysterio, Los Mysterios.
Arm.
Check. Les Dirty Dogs, check.
Arm.
Et Nigerian Mafia.
Bam!
Check, Cruz et les Corridor Oasis qui se retrouvent dans un match ce soir après s'être un petit peu ambiancé là, les Mysterio et les Street Profits parce que ce soir ils vont au Rumble et ce soir ils sont ensemble, hein, les gentils contre les méchants. Classique.
C'est ça.
Un match tout à fait, une configuration tout à fait classique à l'approche du Rumble. Voilà, donc tout le monde a bien déroulé, il y a eu des contres, des Hurricane Rana dans tous les sens. Il y a eu de la brawl. De la brawl ringside. Comme tu l'as dit, du 619. On a tout eu. Et à la fin, il ne reste plus que Dawkins et Montez Ford pour finir en faisant un magnifique spinebuster et un frog splash. Mais j'ai l'impression qu'il a encore battu son record là. 6m14 pour Montez Ford. Puis surtout quand il atterrit, puis qu'il rebondit. Mais t'as l'impression qu'il rebondit aussi haut qu'il a sauté. Et la victoire des gentils, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé juste après, puisque les quatre donc célèbrent leur victoire, et les Street Profits, voilà, font preuve un peu de naïveté, ils se font éjecter par le père et par le fils par-dessus la troisième corde, et le fiston, trop content de son coup, voit pas le père venir, et le paternel donne une leçon au fiston en le passant à son tour par-dessus la troisième corde. Et là, je sais pas si tu diras ce que t'en penses, mais on a presque l'impression que Dominique était pas au courant. Qu'il allait lui faire le coup, parce qu'il rigolait, toi, genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as bien lu, papa.
Ah, à mon avis, je pense que c'était pas loin d'être un truc spontané. Peut-être que Ré avait vu ça avec le booker juste avant, tu vois. Et quand le mec lui a dit, bon bah ok, bah vous finissez tous les deux, il dit, ah non, mais attends, je vais sortir le fiston, tu vois, ça va être sympa. Et Booker, il a dû dire, ouais, ok, pas de problème, vas-y, fais comme tu veux, quoi, t'es le patron ici, quoi. Parce que peuple de ketchup, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le souligner, est entré quand même dans l'histoire, puisqu'il devient un catcheur 5 étoiles dans 5 décennies différentes, quoi. Hein. C'est quand même monumental la carrière du Luchador, on ne le dira jamais assez. Là, on a eu un match de 8 minutes, hein, pas super long, mais vraiment ce qu'il fallait pour envoyer un spot fest. Hein. Là, clairement, on a un main event de Monday Night Raw avec un spot fest. Moi, je me suis régalé, je vous le dis direct, le main event, ça a été un régal total avec cette fin incroyable. J'ai eu une petite pensée pour Giscard aussi, quand notre ami Réré a fait le You Can See Me à son fils et au Street Profits. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ce mec est une légende, archi légende, archi archi légende. Ça ne tenait qu'à moi. De toute façon, il rentrerait au Hall of Fame en étant catcheur d'active. C'est génial, quoi. Franchement, en plus, ça me hype pour le Rumble, un truc de fou. Donc c'est parfait.
Ouais, ça va être sympa cette petite histoire. Est-ce que voilà, le fiston va avoir sa revanche ou pas? Ça peut être sympa. C'est bien. Voilà, on plante des graines pour le Rumble et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut planter des petites graines, des petites rivalités, des micro-rivalités ou de la petite compétition. Et ça, c'était vraiment le move nickel.
Avant ouais, d'arriver, là, tu dis voilà, on est dans une belle tag team division là, Monday Night Raw. Ouais. Ça fait plaisir là de voir qu'il y a 4 équipes plus les 2 précédentes qu'on a vues. Tu vois, il y a déjà 6 équipes là qui sont là et qui peuvent être susceptibles de venir challenger. Ça c'est cool quoi. Moi c'est ça que j'attends, hein, tu vois quoi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, comme tu l'as précisé au départ de ton play-by-play, c'est un match assez traditionnel avant un Rumble où on voit toute une revue d'effectifs avec beaucoup de catcheurs dans le ring, etc. Mais ça prouve quand même la vitalité de la tag team division dans le vaisseau amiral.
Ouais, tu sais ce que j'aimerais voir? On a Elimination Chamber, c'est là fin février en Arabie Saoudite, hein, ils l'ont annoncé.
Le 19.
Le 19, je serais pas contre un petit Elimination Chamber tag team. Là.
Pourquoi pas? On en a déjà eu un, pourquoi pas recommencer, ouais.
Ça pourrait être sympa. Mais comme tu l'as dit, voilà, on a une belle division qui va être bien occupée jusqu'à WrestleMania. Là.
Y a de quoi tu les as, t'as tes 6 équipes là dans ta chambre de l'enfer.
Pour remplir
là,
tes pods.
Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour remplir tes pods là. Hein. Donc là, franchement, ça fera un beau, beau match. Hein.
Alexa Bliss continue. C'est,
oui.
Voilà, c'est rendez-vous avec son psy. Cette fois-ci, on fait un petit, un petit exercice d'association de mots. Et à chaque fois que le psy lui dit un mot, elle répond par Lily. Voilà, elle lui dit vérité, Lily, amitié, Lily, maison, Lily, poupée, Lily. Et là, il dit imaginaire. Ça bloque. Avec ça, il y a un blocage. Elle regarde, elle veut casser quelque chose. Le docteur lui dit, il n'y a plus rien à casser ici. Tu as tout cassé la semaine dernière. Et elle trouve la zénitude. Et ben voilà, je trouve que ce psy, il a été très efficace, puisqu'en 2 ou 3 séances, voilà, il a guéri, il a soigné notre Alexa Bliss. Parfait. Bravo.
Donnez-nous 500 euros. Donnez-nous le numéro du 06 pour notre papy, quoi. Parce que là, on ne sait jamais, il peut être utile quand même, ce psychiatre. Oh, incroyable. Oui. Ah, Alexa Bliss, ça fait le buzz en tout cas en attendant.
Ouais.
Moi, je suis pas super fan pour l'instant de ce qui se passe, mais en tout cas, elle, de son côté, t'inquiète que la gamine, elle sait gérer son affaire et elle fait un gros buzz sur les réseaux sociaux avec ça. Là, elle vient de sortir apparemment une séance de photos, pas possible. Là, j'ai pas encore eu le temps de voir ça, mais il y a déjà 50 000 notifications sur Alexa Bliss. Il y en a une qui sait bien gérer sa carrière extérieur ring, c'est bien Alexa Bliss. Hein. Et on l'avait dit, je sais plus si on l'avait dit, hein, Irem, la semaine dernière, qu'elle a terminé quand même l'année 2021 en 4e position des meilleurs vendeurs de merch de la WWE, donc c'est pas pour rien. Donc même si je pense le segment, tu vois, nous, va peut-être pas forcément nous emballer ou quoi que ce soit, etc., je pense que sur sa fanbase, si tu veux, tout le monde est tellement impatient de la revoir véritablement dans le ring que y a pas de problème, ça marche quand même, quoi.
Ah oui, bah là, c'est-à-dire qu'elle a clairement une part de l'audience de la WWE, rien que pour elle, toi. C'est ce genre de catcheur qui vampirise complètement une partie de l'audience et du coup, qui ramène du cash, du flow, du beef à la WWE. Et donc, on garde ça, on jette pas, on conserve.
Tu m'étonnes.
Bon, allez, c'est l'heure du main event. Bobby Lashley contre Seth Rollins.
Excuse-moi, c'était juste parce que c'était l'occasion, après ce que tu venais de dire, de glisser l'anecdote.
De me glisser un petit billet, c'est ça? Tu veux faire un petit billet? Vas-y.
Oh bah, merde, c'est toi le patron, c'est toi normalement qui devrais me glisser des billets. Hein. Non, mais c'est juste que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur Alexa Bliss avec le merch, parce que en fait, l'histoire de 2008 avec Triple H, bah, c'est exactement lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a un booker qui a proposé la victoire de Jeff Hardy en 2008 en disant « Ouais, il est super hype et tout ça ». Il y a une réunion, machin, des bookers avec Vince McMahon. Grand silence quand le mec expose son idée de booking et tout et tout. Triple H, là-dessus, il rentre dans le bureau de réunion et il dit « Mais c'est pas possible, vous allez pas donner le titre à ce gars-là, il est pas fiable. » Il y avait déjà des problèmes hein, avec Jeff Hardy à l'époque, hein, de drogue, d'alcool et tout. Et donc pour Triple H. Et là-dessus, le mec, le booker, il lui sort un graphique et il lui dit « Bah écoute, actuellement, le meilleur catcheur pour avoir le titre suprême sur les hanches, c'est Jeff Hardy, parce que même toi, Paul, eh ben, il te nique sur le merch, quoi. C'est le meilleur vendeur de la WWE. » Là-dessus, Vince McMahon, attends, c'est pas fini, hein, c'est presque fini. Vince McMahon, il écoute le Booker parler. Alors, j'ai oublié son nom. Il écoute le Booker parler.
Il s'appelle qui, le Booker?
Voilà, il lui dit, et Vince, il dit à toute l'assistance de la réunion, il leur dit, vous sortez. Tout le monde sort, sauf Triple H. Il reste avec Triple H. Il reste avec Triple H dans le bureau, ça dure quelques minutes. Au bout d'un moment, Triple H, il sort du bureau, et là, le booker, il explique, il dit « Bah là, quand j'ai vu Triple H, je savais qu'il allait se passer deux choses, parce que Triple H, il est passé devant lui, il lui a pas jeté un seul regard, et donc je savais que Triple H, dorénavant, c'était mon ennemi, et la deuxième chose, c'est que je savais que mon idée était validée par Vince McMahon, et Jeff Hardy devient donc champion du monde à cette période-là, aux dépens de Triple H. »
Magnifique histoire. Magnifique histoire. Comme quoi, faut toujours bien préparer ses présentations PowerPoint que tu vas voir le patron.
Exactement.
Ouais. Et bah oui, bah voilà, le merch, voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et bah voilà, Jeff Hardy, il ramène de l'argent et bah il devient champion tout simplement. Il était over, hein, Donc
mais oui.
Une belle histoire.
C'était l'époque catch attack. Là, c'était un truc de fou à l'époque en plus quoi. Donc vraiment. La WWE surfait sur une vague, n'avait aucune concurrence, il n'y avait rien, quoi. Elle écrasait tout le monde sur son passage.
Ouais.
Et donc, moi, tout ce qu'a expliqué le Booker me paraît totalement logique, cohérent, et Vince McMahon me semble avoir pris la bonne décision à l'époque. Mais bon, après, on sait que par la suite, ça sera une catastrophe, puisque en fait, Jeff Hardy quittera la WWE moins d'un an après sa victoire. Et voilà, et on connaît la suite de la carrière de l'énigmatique.
Ouais, mais d'où son accueil toujours à bras ouverts pour ce retour, parce que c'est comme si finalement il avait jamais vraiment.
C'est tout le paradoxe avec ce catcheur là, quoi.
C'est incroyable. Il est parti au firmament, quoi, hein, de sa carrière à WWE au moment où il avait enfin touché les étoiles grâce à une petite présentation d'un petit booker qui a osé tenir tête à Triple H. Voilà. Bravo, c'est beau. Bon allez, deux qui se tiennent tête ce soir, c'est Bobby Lashley et Seth Rollins, ils sont dans notre main event. Écoute, c'est un petit goût de match de pay-per-view qui aurait dû avoir lieu, mais en fait non, parce que il y en a un certain Samoan qui a chopé le Covid. Et du coup, on a un peu changé tous les programmes, et du coup, on se retrouve avec un Bobby Lashley contre Seth Rollins. Donc, configuration assez compliquée, puisque finalement, tonton, bah, ce sont les deux contenders actuels aux deux titres suprêmes de la WWE. Ah, tu fais gagner qui dans ces moments-là? Qui c'est qui gagne?
Ça, c'est super compliqué. Hein, là. Déjà, l'affiche m'étonnait presque. Mais c'est vrai que, ouais, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et moi, je pensais à deux choses. Hein, de toute façon, c'était la DQ ou le double count-out.
Ouais, évidemment, ça ne peut pas se terminer complètement clean, hein, cette histoire. Bon, voilà. On a eu un super package vidéo sur la carrière de Bobby Lashley et de Brock Lesnar. Ça a duré 20 minutes. C'était un film hollywoodien.
Bah ouais.
Un beau récap là de ces deux Golgoth qui vont s'affronter. C'était ouais, ça m'a mis bien dedans moi. Et puis on voyait enfin Bobby Lashley, il me fout la banane, hein, l'impression qu'il revit complètement là depuis qu'il sait qu'il va avoir son match contre la bête. Il avait le smile là dans une des interviews qui a alimenté cette vidéo, il avait le gros smile là, il est chez lui sur sa terrasse, il parle du match et il est trop content qu'il trépigne d'avance. Il va aller se faire botter le cul, hein, pas de problème, mais il est impatient. Voilà, donc Bobby Lashley fait parler sa puissance, cette Rollins, sa fourberie et son athlétisme. Voilà, ça, on se passe des souplesses et ça commence. Seth Rollins, voilà, essaie de se focaliser sur la jambe de son. rival, allez, là, qui débarque et qui attaque Bobby Lashley, disqualification, pendant que Seth Rollins admire le travail, il voit pas venir qui, les Usos, les Incous, les Frangins, les Jumeaux, qui viennent placer leur double super kick, tout le monde en a eu pour son argent, tout le monde a bouffé ses dents, quel main event, et c'est à vous la parole, tonton.
Ouais, comme tu l'as dit, hein, quel main event, quoi. Là, on a vraiment, on a deux mecs là au palmarès long comme le bras. Et puis je reviens sur le fameux package vidéo dont t'as parlé là. Incroyable package, mais c'était génialissime, quoi. On avait l'impression là de voir un truc. On nous annonçait le prochain championnat du monde poids lourd de boxe. c'était waouh, la WWE de toute façon elle sait faire, hein, elle est c'est une pro, hein, là-dessus, quoi. Très franchement, tous les trucs, moi je regarde la série Ruthless Aggression, les documentaires 24 Chronicle, tout ça, vraiment la WWE elle a un savoir-faire que je vois quasi nulle part ailleurs à ce niveau-là. Et oui. C'est formidable, quoi. C'est vraiment là ce package là, mais c'est un truc de dingue, quoi. Pour quelqu'un qui connaît pas le catch, qui ouvre avec ce Monday Night Raw et qui tombe sur ce package-là, il se dit mais wow,
et je peux pas louper ça.
Ah ouais, mais il faut que je voie, c'est quoi les deux Golgoth là, monstrueux, il faut que je sache comment ça se passe, quoi. Enfin, je veux dire, la hype est là, et derrière, gros match, donc comme on l'a dit au départ, très très compliqué, puisque tu peux pas donner une victoire clean dans un match pareil, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, les mecs ont quand même sorti ce qu'il fallait, et puis ça s'est fini, bien 13 minutes 17 hein, le match, hein. Ça se termine sur une DQ, belle intervention des Usos, qui était, j'ai bien aimé le t-shirt avec la tête de Heyman barrée dessus, les chaussures, la tenue en raccord avec les couleurs de Monday Night Raw. Bref, c'était nickel, c'était bien ciselé. Donc moi ça m'allait très bien, un Monday Night Raw qui se terminait de belle manière.
Ouais, les Usos qui ont bien vendu aussi, hein, on parlait de merch, ils ont bien vendu les t-shirts. Bah là je pense qu'ils vont en revendre autant, mais avec la version avec effectivement la tronche de Paul Heyman barrée, bah voilà. Ouais, hein, faut pas s'embêter, hein. Faut pas réinventer l'eau chaude, pas réinventer l'eau tiède. Quel main event pour terminer donc ce Monday Night Raw. Mon tonton, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top et ton flop et ta note pour cet incroyable épisode du show rouge.
Ah bah écoute, c'était plutôt pas mal. On est plutôt gâté, mon bon patron, en ce moment, je trouve. Hein, la semaine dernière, on avait mis une belle note déjà. Ouais. Et bah là, écoute, alors, moi, mon flop, il va aller. J'ai un doute de l'avoir fait la semaine dernière déjà. Mais enfin, moi, non, vas-y. Pourquoi je fais une review avec le patron. Du coup, je vais donner mon flop au patron, mais au patron de la WWE pour cette malaisante promo face à Austin Theory. J'espère quand même que quelqu'un osera lui dire pendant la semaine que ça serait bien de ne pas répéter cela tous les lundis. Mais parce que vraiment, là, ça a été un grand moment de gênance pour moi durant ce Monday Night Raw, et c'était bien dommage qu'il existe ce moment-là, vu qu'on était face à un épisode de plutôt bonne qualité. Et donc voilà, ça sera mon flop. Et ben mon top, moi, je vais le donner à Rey Mysterio. Il y a eu plein de trucs sympas, le main event, le Kevin Owens Damian Priest. Malheureusement, le tag team des filles au départ est un peu gâché avec ces 3 minutes de match, mais l'opener malgré tout tenait la route, donc c'était un Monday Night Raw qui tenait bien, mais je le donne à Rey Mysterio, voilà, là, pour les récompenses qu'il a reçues, là ça tombe de partout en ce moment là, voilà, les 5 étoiles, 5 décennies, tout ce que vous voulez, le plus grand luchador de tous les temps, même El Santo là est remis au piquet à côté. Bref, là, c'est vraiment un truc. Et puis voilà, j'ai adoré, quoi, cette fin de match, là, de tag team. On balance les Street Profits, on balance le fiston, tout ça dans la joie, la bonne humeur et la gaudriole. Il avait un masque magnifique, j'adorerais avoir son masque. Il avait une super tenue, Ray, cette semaine-là. Et donc voilà, donc j'aime tellement cet homme. On a le même âge, lui aussi. Je suis un petit pareil, plus âgé que lui.
Encore, ah bah attends, le tonton, il a le même âge que tout le monde.
Ouais, le hasard fait que. Mais il est un petit peu plus jeune que moi, par contre, Ray, parce qu'il doit avoir 48 ou 49. Mais je veux dire, si tu veux, je suis attaché à lui parce qu'en fait, je le suis depuis le début. Et vraiment, du coup, depuis le début! Donc vraiment, c'est vraiment un des catcheurs. Non, il est 74, il a 47 ans, notre ami Réré, quoi. Et donc vraiment, ouais, là, le voir, là, comme ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, ma note, alors c'était un petit ton en dessous de la semaine dernière. Beaucoup de promos, comme tu l'as signalé. Mais je vais lui, ça reste un Raw, pour moi, assez solide, et je vais lui donner un 3, un bon 3.
Oui, d'accord, ok. Bah écoute, j'ai trouvé aussi cet épisode très très solide, avec plus de place que pour les promos, mais c'était pas pour me déplaire parce que j'ai trouvé qu'ils ont. Tout le monde a été excellent, on va dire entre bon et excellent dans ses promos. J'ai
Ouais.
pris beaucoup beaucoup de plaisir, moi, à toutes ces interventions entre chaque match et en plus entre les cornes, on a délivré la marchandise. Alors, certes, avec un peu de frustration parfois, comme cet opener chez les filles. Mais bah écoute, franchement, toutes les cases ont été cochées ce soir. Hein. Donc moi, je vais rester sur la même note que la semaine dernière. Alors, on l'avait bonifié parce que c'est un épisode spécial. Donc là, je vais pas le bonifier. Je vais à 3,75 pour moi.
Oh ouais.
Ouais, franchement, j'ai trouvé que c'est un très très bon épisode. J'ai passé un excellent moment, hein, tonton. Vraiment, vraiment. Là, je tiens à le dire. Pour autant, donc mon flop, ça va être comme toi, je suis désolé, hein, mais c'est pas possible, hein. Vince McMahon, ça c'était honteux, pour moi là,
Non mais là, de patron à patron, voilà.
Oui, il le sait en plus, de toute façon, il le sait, à chaque
Vous
fois qu'il
allez,
fait ça, il le sait.
quand vous vous retrouvez aux réunions du MEDEF, là, bah écoute, moi je pense qu'il faut que tu lui en parles,
Ouais,
quoi.
CAC 40 du monde du catch, là, il est là, je suis là, et il me regarde pas, hein, il me regarde pas, il ose pas, parce qu'il le sait, il le sait, il le sait, il me l'a dit, il me l'a dit. Puis il n'y a pas besoin de me
Ah.
le dire, il n'y a pas besoin de me le dire.
Tu le vois dans ses yeux.
Eh oui, je le vois. Mais bon, il s'obstine. Voilà, c'est comme ça, les personnes âgées, elles s'obstinent. Elles restent coincées dans le passé. Bon, on ne le changera pas, hein, on ne le changera pas. Ça, on ne le changera pas. Et mon top, je vais le donner à Gable et Otis. J'ai trouvé excellent, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un super moment dans leur promo. Là, j'étais plié, quoi. Vraiment, voilà, ça fait plaisir de voir tous ces catcheurs là, prendre 5, 10, 15 minutes à faire des bonnes promos. Bon bah voilà tonton, je trouve qu'on a eu un bon épisode de Raw là, à l'approche du Rumble là, dans 10 jours. Ça va arriver vite hein, finalement. Ça va arriver vite finalement.
Ah, mais Monday Night Raw, hein, depuis le début de l'année, même depuis la mi-décembre, là, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Ils ont largement redressé la barre, hein, au vaisseau amiral, hein, et on est sur une suite de bonnes notes, hein, pour le show. Globalement, on s'ennuie pas, il se passe des choses dans la Tag Team Division, le main event est animé, donc ça va. Le titre US est là, défendu, le titre intermédiaire a hein, de l'importance, à la différence de ce qui se passe à SmackDown avec le titre intercontinental. Donc c'est plutôt agréable, quoi, quand ça se passe de cette manière-là.
Très très agréable, et tu sais ce qui est encore plus agréable, c'est de s'abonner à Catchup pour ne manquer aucun épisode. C'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE hein, chaque semaine, et pas que. On vous a déjà livré toute une plâtrée d'épisodes spéciaux entre les comptoirs du catch, nos awards évidemment. Voilà, on a eu pas mal, je sais que vous êtes nombreux à avoir apprécié tous ces épisodes spéciaux, notamment celui dédié à la AEW, au plus grand malheur de
Oui.
Papy, qui devient fou à voir les statistiques exploser pour le compteur exploser pour le comptoir du catch spécial AEW. Ben oui, papy, hein, c'est comme ça, va falloir t'y faire.
Eh oui.
Les vieux ne veulent pas changer, je te l'ai dit. Oui, je te l'ai dit. Pour ne manquer aucun épisode, ouais, tu veux me dire quelque chose, t'entends?
Non, j'acquiesçais à ce que tu disais.
Ah d'accord, tu fais des petits cris, des
Voilà,
petits cris. Ça se passe sur PodCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et évidemment YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo votre top, votre flop et votre note. Dites-nous ce que vous avez pensé là de cet épisode de Monday Night Raw. Les liens vers les réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Instagram et Facebook et évidemment notre Discord. Le lien, il est dans la description. Je te remercie, tonton, pour ta présence.
Oui, bah écoute, c'est moi qui te remercie pour ce hosting de qualité. Dernière petite info, c'est te donner le ratings de ce Monday Night Raw. Parce que tu sais, toi, tu ne le sais que trop bien. D'ailleurs, il y avait la wild card de la NFL cette semaine. Et donc, pour Monday Night Raw, c'était attention, danger! Et en fait, ils s'en sortent pas trop mal parce qu'ils font 1 613 000, donc ils restent stables. Malgré, il y a le match à Walker, je crois, a fait presque 9 millions de vues, quoi, donc truc de fou. Mais du coup, en fait, ça reste stable à Monday Night Raw, donc ça rejoint certainement ce qu'on dit. Alors, c'est toute la différence avec Catch Up, par contre, c'est que à Monday Night Raw, en fait, ça reste stable pendant qu'à Catch Up, en fait, ça explose les compteurs. Donc, les ratings grimpent, grimpent, grimpent. Peuple de Catch Up, continuez les commentaires, continuez à aller écouter nos comptoirs du catch, vous allez voir, là, c'est le feu! Il faut continuer, il faut y aller!
Et bien justement, nous on y va, hein. C'est l'heure de se quitter. On vous donne
Attends.
rendez-vous très 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 bientôt pour la suite et l'analyse notamment de SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut patron, salut peuple de catcheurs!
Il y avait un Rumble au studio Catch-Up, qui gagnerait d'après toi?
Oh, bonne question.
Qui serait le plus filou?
Ça serait l'ignore!